La motivation de Dieu envers nous est incompréhensible. Les humains font tellement n'importe quoi. Ils font tellement de mal, ils rejettent Dieu, ils ne le remercient pas ou si peu pour ses bienfaits. Ils l'accusent même souvent de tout ce qui peut leur arriver de mauvais. Même si j'aime une personne énormément, si elle se comporte comme ça envers moi, ma motivation envers elle, elle ne survivra pas, c'est fini, ça y met fin. Mais non, Dieu ne nous a pas abandonnés, bien au contraire, sa motivation pour nous est tellement forte qu'il a décidé de nous sauver de tout ce mal que nous pouvons commettre. Son amour pour nous est tellement fort que le Seigneur a décidé de venir parmi nous comme un serviteur et non pas comme un maître. C'est ce que l'Épître aux Éphésiens nous dit au chapitre 2, à partir du verset 6, au sujet du Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Dieu est tellement motivé pour nous qu'il est devenu serviteur. Le Christ nous aime tellement qu'il a donné jusqu'à sa vie sur la croix pour racheter la nôtre. Notre vie qui était condamnée à cause de tout ce mal que nous pouvons commettre. Et encore une fois, cette motivation si forte de Dieu pour nous, elle lui vient de tout l'amour qu'il a pour nous. C'est ce que dit ce célèbre verset de l'Épître de Jean, chapitre 3, au verset 16. « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jamais, jamais nous n'aurons assez de gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait. Jamais nous ne serons à la hauteur d'un tel cadeau. Mais Dieu ne nous demande pas de le mériter. Il veut simplement que nous lui demandions pardon pour le mal que nous faisons, puis qu'en retour de son amour pour nous, nous lui montrions l'amour que nous avons pour lui. Cette motivation, cet amour de Dieu pour nous, doivent être un exemple pour nos vies. En effet, nous l'avons vu, le Christ, le Seigneur, s'est fait serviteur pour nous. C'est ce que disait le texte de Philippiens 2. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition de serviteur. C'est ce que le Christ a fait par amour. Eh bien, à sa suite, Dieu désire que nous le prenions pour exemple, que nous lui ressemblions. C'est ce qui est écrit en Romains, chapitre 8, au verset 29. « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. » La parole de Dieu nous demande de prendre exemple sur le Christ et donc, comme le Christ, d'être motivé pour les autres, d'aimer les autres jusqu'à se faire serviteur. C'est ce qui est dit en Galates chapitre 5 au verset 13. « Par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain. » comme toi-même. Alors dans ce passage, l'apôtre Paul, oui, c'est vrai, parle aux disciples du Christ uniquement, hein, c'est pour ça que l'amour et le service peuvent être mutuels, mettez-vous au service les uns des autres, c'est ce qui se passe entre croyants, entre disciples, et ça nous montre qu'aimer l'autre, ça commence avant tout envers notre famille spirituelle, l'Église entre croyants, ça ne s'arrête pas là, nous sommes appelés à aimer tous les humains, mais ça commence quand même, entre frères et sœurs en Christ. Dans l'Église, nous sommes appelés à vivre l'amour mutuel et donc le service mutuel, se faire serviteur. Être serviteur de Dieu, être serviteur les uns des autres, être serviteur de l'Église du Christ, ça devrait être une motivation extrêmement forte pour tous les croyants, parce que c'est ce que Dieu désire pour nous. C'est l'exemple qu'il nous a montré. Nous pouvons nous mettre au service des croyants par des actes, par de l'entraide, par de l'écoute, par des paroles. Mais notre communauté désire aussi, chaque dimanche, chaque semaine, le faire par le geste de l'offrande. C'est-à-dire en mettant en commun une partie de nos biens afin de permettre le fonctionnement, le service commun, le témoignage commun de notre Église. Nous venons de parler de motivation, celle de Dieu pour nous, qui doit nous servir d'exemple. Eh bien, avec la rentrée, peut-être la fin des vacances, les souvenirs des moments de repos, de voyage pour certains, c'est pas toujours facile de retrouver une bonne motivation. Et j'aimerais qu'on en parle un peu dans cette prédication. À ceux qui me connaissent bien le savent, les autres, bah, vous allez l'apprendre. Je suis un grand fan de bandes dessinées japonaises, les mangas. Pour ça, je me sens à ma place à Angoulême. Culturellement, ça colle. Et un de mes mangas préférés a pour titre Beck. Alors, il est incontestablement dans le top 3 des mangas qui m'ont le plus marqué, pourtant j'en ai lu. C'est l'histoire d'un adolescent qui n'aime pas sa vie de lycéen. Hein, trop banal. Certains de ses amis vont monter un groupe de rock. Alors, pour vivre cette aventure avec eux, eh bien, il va se mettre à apprendre à jouer de la guitare. En plus, il se trouve qu'il chante extrêmement bien, il a une voix magnifique. Alors son but, c'est d'intégrer le groupe de ses amis et ensuite qu'ensemble, ils progressent et qu'ils atteignent les sommets. Et ce manga m'a fait rêver longtemps. Il n'est pas tout jeune, hein. Je pense qu'il doit à peu près mon âge. Donc moi, je l'ai lu en étant ado, il avait déjà quelques années. Il m'a fait beaucoup rêver parce que déjà, j'aime le rock, le rock'n'roll, c'est un style de musique qui me plaît. S'il y a bien une chose que mon père m'a transmise, eh bien, c'est le goût du vieux rock des années 60-70. Led Zeppelin, mon groupe préféré. Creedence, pour ceux qui connaissent, ça c'était de la musique. Puis après, j'ai grandi à adolescent, c'était ma période avec le grunge, de Pearl Jam, de Nirvana, tout ça, dans les années 90, jusqu'à des groupes plus actuels, White Stripes, Muse, bon. Et autres. Eh bien, ce manga est rempli de super références à toute l'histoire du rock'n'roll, donc forcément, je l'aime pour ça. Mais surtout, il m'a fait rêver, parce que l'état d'esprit du héros que voici, ça a longtemps été le mien, et je vous lis ce qu'il dit en introduction du premier tome. Il dit ceci: aujourd'hui ressemble à hier, demain sera comme aujourd'hui, et après-demain aussi sans doute. Je suis vraiment un mec ennuyeux. Je me demande si mon quotidien va être aussi médiocre toute ma vie. Il faut être réaliste, pour la plupart d'entre nous, la vie, c'est pas une aventure de chaque instant. On se lève aux mêmes heures, ou presque, tous les matins. On a les mêmes occupations semaine après semaine. Oui, la période de vacances nous a offert un petit break dans la routine de notre quotidien, mais c'est la rentrée et la routine reprend. On rêve assez souvent de changement. On aimerait que notre vie soit radicalement différente. Regardez, faites la liste du nombre d'émissions de télé qui nous vendent du dépaysement, du déracinement, un changement de vie. Ça répond à une vraie aspiration de notre société. Je pense que tout le monde en vient forcément un jour à se demander la même chose que le héros de ce manga quand il nous dit « Je me demande si mon quotidien va être aussi médiocre toute ma vie. » Eh bien, j'aimerais ce matin essayer de vous convaincre que ce que nous appelons la routine, le recommencement, ce n'est pas un bourbier dans lequel notre vie s'enlise faute de changement, mais que c'est en fait, ça peut être, une partie bonne et belle de la création voulue par notre Dieu pour notre vie. Et j'aimerais vous montrer que le moyen de sortir de cette impression de bourbier n'est pas forcément le changement de vie, sans exclure le changement non plus, il n'est pas mauvais en soi, mais parfois simplement le changement de regard sur la vie en général. Et pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, au verset 9. Au chapitre 3, oui, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, au verset 9 jusqu'au verset 15. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le livre de l'Ecclésiaste, je crois qu'on ne peut pas avoir plus l'impression de lire quelqu'un de blasé en lisant ce livre, alors qu'en fait, je veux vous montrer qu'il ne l'est pas. Au verset 9, « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ?» j'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi ai-je conclu qu'il n'y avait rien d'autre qui soit bon pour lui, pour l'homme, que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Alors le dernier verset de ce passage résume bien le problème. Tout n'est qu'un éternel recommencement. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il fait sa création, ce monde et notre vie si monotone, cyclique, routinière ? Eh bien, l'Ecclésiaste nous donne la réponse au verset 14. Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Pour qu'on le révère. Pourquoi révérer Dieu pour la routine si justement je n'apprécie pas ce recommencement ? Eh bien, je vois trois raisons possibles. Tout d'abord, le recommencement continuel des choses nous rappelle à quel point nous avons peu d'emprise sur notre vie et sur le monde. C'est une immense leçon d'humilité. Nous comprenons que nous sommes pris dans des engrenages qui nous dépassent complètement. Et le monde nous semble tourner sans fin, sans que nos petites vies si brèves ne le touchent réellement. J'en reviens à mon héros de manga qui l'a bien compris et qui nous dit « Aujourd'hui ressemble à hier, demain sera comme aujourd'hui et après-demain aussi sans doute. » Par ce moyen, nous prenons en pleine face, ça ne fait pas forcément du bien au premier coup, mais nous comprenons la différence qui existe entre le Dieu libre, le Dieu tout-puissant, créateur et maître de toutes choses, et nous-mêmes, simples créatures, soumises à des lois dans ce monde, à cette création, qui ne maîtrisons rien ou si peu de notre vie. Cette humilité de reconnaître qui nous sommes et qui est Dieu, eh bien c'est le début du respect que Dieu doit nous inspirer. Voilà une première raison qui fait que cette routine peut nous amener à révérer Dieu. Deuxièmement, cette routine, comme on l'appelle, c'est aussi tout simplement parfois le renouvellement continuel des grâces, c'est-à-dire des cadeaux, des bienfaits que Dieu nous accorde. Le jour qui succède à la nuit, le cœur qui bat sans s'arrêter, les saisons qui se suivent, qui se ressemblent certes, mais qui se suivent. Et aussi, il faut le dire, oui, également, le travail que chaque jour j'ai peut-être la chance de pouvoir effectuer. Toutes ces choses sont des dons de Dieu. Des cadeaux gratuits qu'il accorde à tous les êtres humains sans distinction et donc pour lesquels nous devons être reconnaissants. Le renouvellement quotidien des cadeaux de Dieu doit aussi nous amener à le révérer. Et je vois aussi une troisième raison pour laquelle le recommencement, la routine peut nous amener à révérer Dieu. Cette raison, je ne suis pas encore bien vieux, donc j'en ai pris vraiment pleinement conscience qu'il y a quelques années, c'était peut-être il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, lors des obsèques de ma grand-tante Alice. Alors, pour ces obsèques, avec plusieurs de mes cousins ou cousines, nous avons témoigné des choses qui nous avaient marquées chez tante Alice. Et on a surtout, sans s'être concerté, on a parlé des choses routinières, les choses qui se passaient à chaque fois qu'on allait la voir. Son fameux cake au raisin, j'en goûterai jamais des comme ça. Les parties de nain jaune et de Scrabble dans lesquelles elle trichait sans arrêt, ces choses insignifiantes, routinières, c'est ça qu'on retient au final. En tout cas, c'est ça que nous avons retenu. Parce que quand on fait le bilan, ces choses sont particulièrement importantes. Ce sont pour nous un ancrage de vie, une source de réconfort qui nous rassure au quotidien. On a beau parfois pester un peu contre la routine, on passe quand même notre temps à ancrer notre vie dans la sécurité de tous ces moments routiniers. On a beau dire parfois qu'on en a marre de voir toujours les mêmes personnes, de faire toujours les mêmes choses, Eh bien, quand ces personnes ou ces moments ne sont plus, bien souvent, nous sommes un peu perdus. Dieu a fait sa création de manière cyclique, de manière répétitive, pour nous apprendre l'humilité, pour nous apprendre la gratitude, et pour notre propre bien-être, pour notre sécurité de vie. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste peut dire que nous pouvons révérer Dieu pour une telle création. Alors si notre quotidien est une leçon d'humilité, de gratitude et un réconfort, pourquoi est-ce qu'on ne le ressent pas forcément comme ça ? L'Ecclésiaste nous apporte encore une fois la réponse dans ce passage, cette fois au verset 11. « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » Ça nous semble normal, en fait, de pouvoir penser au futur, au passé, faire le point de notre vie. Ça nous semble normal, mais si nous sommes capables de le faire, penser au futur, analyser le passé, comprendre que tout recommence à l'identique. Si nous sommes capables de le faire, c'est parce que Dieu, comme le dit ce texte, a implanté au tréfonds de notre être la conscience de l'éternité, du temps qui dure. Imaginez un instant que nous soyons incapables de penser au futur et au passé. Nous serions continuellement dans l'instant présent, dans le besoin immédiat, dans la recherche du simple confort, de la nourriture, du repos pour maintenant. Impossible de repenser à hier, impossible de prévoir demain, impossible donc de penser de manière routinière. Mais nous serions alors comme beaucoup d'animaux, sans possibilité de comprendre le passé, d'imaginer l'avenir, de faire le moindre projet, de faire le point sur notre vie. Et nous ne pourrions pas non plus comprendre le Dieu éternel si nous n'avions pas de notion de l'éternité. Mais Dieu a voulu une communion, c'est-à-dire une relation privilégiée entre lui et les humains, bien plus qu'avec toutes les autres créatures. Il nous a donc permis de comprendre, même si c'est qu'en partie, l'éternité, pour que nous puissions le comprendre, lui. Et de ce fait, eh bien, nous comprenons aussi les cycles de la vie. Nous comprenons le recommencement des choses. Mais ce passage nous dit également que l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Et voilà le problème. Voilà pourquoi on s'ennuie si facilement de ce recommencement. Dieu nous a donné de pouvoir penser en partie l'éternité, mais nous restons limités dans notre compréhension. On ne comprend pas les buts de Dieu, on ne comprend pas ses plans, ni la finalité des choses. Nous voyons simplement un chemin qui se renouvelle et qui semble interminable, mais nous ne voyons pas le bout de ce chemin. Alors fatalement, on s'en lasse de ce chemin qui devient pour nous monotone. Si nous ne comprenons pas les buts de Dieu, la vie peut nous sembler ne plus avoir de sens au bout d'un moment. Le recommencement de toute chose peut nous sembler ne pas avoir de sens. Et j'en arrive alors à la question qui nous intéresse tous, hein, qui passionne tous les êtres humains, même tous les philosophes depuis toujours. Comment faire pour vivre heureux dans ce recommencement ? Eh bien, comme pour les autres questions, c'est très pratique. Le texte nous donne la réponse au verset 12 et 13. « Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour l'homme, pour lui, que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » Il nous faut profiter des dons simples que Dieu nous accorde, qu'il nous répète chaque jour. Il nous faut prendre du bon temps, profiter du boire et du manger, comme le dit ce texte, avec modération toujours. Profiter du repos comme du labeur, des petits comme des grands moments, parce que toutes ces choses sont des dons de Dieu. Pouvoir profiter librement et dans la joie de ce que Dieu nous offre, c'est un don de Dieu. La Bible nous propose en fait de changer de point de vue sur la vie, d'y voir Dieu partout, ses dons, ses bienfaits. Nous sommes sur un chemin qui se répète et nous n'en voyons pas le bout, nous ne comprenons pas tout, alors la Bible nous propose la foi. la confiance en ce Dieu qui, lui, est infini, qui décide du chemin, mais qui décide aussi du but, et qui a un plan pour chaque chose. En réponse à l'ennui de la répétition, l'auteur, eh bien, nous propose de faire confiance à Dieu pour l'avenir et de jouir de ce que Dieu nous offre dans le présent. Alors ce message n'est pas un appel au laisser-aller, à la paresse ou à la négligence. Le texte nous parle de jouir des dons de Dieu, même dans le labeur, c'est-à-dire dans le travail qui nous permet de préparer aussi l'avenir, l'élaboration de projets, dans les changements de vie qui peuvent intervenir, hein, les changements de travail, les chamboulements de vie. C'est aussi là-dedans qu'il faut pouvoir profiter des dons de Dieu. Donc continuons à penser l'avenir, à prévoir, à préparer. Mais ce message est un appel à la foi avant tout, à la confiance en Dieu pour cet avenir que nous maîtrisons si peu, voire presque pas du tout. C'est un appel à la gratitude dans le présent, pour tous les dons quotidiens de notre Dieu. Et surtout, c'est un rappel que rechercher le bonheur ne pourra se faire qu'auprès du Seigneur, dans la paix que seule la foi en Dieu peut nous procurer. Vous savez que beaucoup de nos contemporains attendent avec impatience l'événement ou la rencontre qui pourra changer leur vie, mais il n'y a que par une rencontre avec Dieu que nous pouvons réellement changer notre point de vue sur la vie. Et c'est aussi ce témoignage de paix et de joie dans le quotidien que l'Église peut apporter à ce monde perdu dans la recherche permanente de sensationnelles, de nouveautés. Et dans le manga Beck, le héros ne fait pas exception. Il trouve son quotidien médiocre, nous l'avons dit. Mais bien sûr, ça va changer, parce que sinon, on n'en ferait pas un manga de 34 tomes. Et c'est une rencontre qui va changer sa vie. Dès les premières pages du premier tome, hein, pas de suspense, on rentre directement dans le vif du sujet, je vous lis ce qu'il nous dit dès les premières pages de ce premier tome. Il nous dit « Je m'appelle Yukio Tanaka et j'ai 14 ans. Ma vie était des plus banales jusqu'au jour où j'ai rencontré ce mec. » C'est ce qui a changé sa vie pour lui. Mais maintenant, voici ce que peut être mon témoignage à moi. Je m'appelle Jeff Comba, j'ai maintenant, je ne sais plus quel âge j'ai, 34 ans. Je trouvais ma vie, c'est vrai, longtemps morne, banale, médiocre, jusqu'au jour où j'ai réellement rencontré Dieu. Et pour terminer cette prédication, j'aimerais vous laisser un chant, bien sûr, enfin vous laisser, on va le chanter, un chant qui peut vous aider si vous ramez peut-être un peu dans cette période de rentrée. Si vous vivez aussi des grands changements de vie qui peuvent faire un peu peur, ou si votre vie peut-être continue sans rien de nouveau et que vous avez du mal à vous motiver un peu, eh bien les paroles de ce chant nous ramènent vers ce qui doit être la seule vraie motivation de notre vie, celle qui nous motivera ensuite, à la fois pour nous-mêmes mais aussi pour les autres, à la ressemblance du Christ. Cette motivation, c'est tout simplement d'être auprès de Dieu, dans sa présence, dont son amour. Nous l'avons chanté juste avant cette prédication, « Dieu, mon essentiel ». Eh bien, par cet autre cantique, je vous invite à chanter, à nous rappeler, à nous-mêmes et ensemble, que c'est auprès de Dieu que nous voulons, que je veux me tenir en permanence. Je vous invite à vous lever pour ce cantique.
Que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi.